Plus tard, tu comprendras. Cette phrase, combien de fois ne l'avons-nous pas entendue dans la bouche de notre père ou de notre mère ? Vous savez, quand nous remettions en cause le bien fondé d'une de leurs décisions. Ou bien, c'est peut-être vous qui l'avez dite à vos enfants afin qu'ils obéissent sans rétorquer. Plus tard, tu comprendras. En confession, il m'arrive parfois de rappeler aux plus jeunes que leurs parents veulent généralement leur bien et que la plupart du temps, suivre les avis des adultes et obtempérer est une des décisions sages. Notre liberté grandit en s'appuyant sur celle de nos aînés comme une plante avec le soutien d'un tuteur. Plus tard, tu comprendras. Cette phrase, c'est aussi celle du Christ à l'apôtre Pierre au soir de la scène. Pierre ne comprend pas le geste de Jésus qui lave les pieds de ses disciples à la manière d'un esclave. « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds ?» Et Jésus de lui répondre, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Il faudra aux apôtres passer par la passion et le sacrifice du Christ en croix, puis par la résurrection, pour prendre la mesure du geste d'amour de Jésus. Chers frères et sœurs, avouez qu'il nous arrive bien souvent d'accueillir les événements avec étonnement, voire indignation, surtout lorsque ces événements ne mettent pas en jeu la liberté humaine et qu'ils nous apparaissent donc incompréhensibles. La maladie d'un proche, une catastrophe s'abattant sur un département français lointain, la mort d'un enfant, rien de plus révoltant. On en viendrait alors à demander des comptes à Dieu. Eh bien, que fais-tu ? Pour ma part, j'imagine que Dieu pourrait très bien nous répondre « Plus tard, tu comprendras ». Il est bien question de cela dans la page d'Évangile d'aujourd'hui, au détail près que c'est l'enfant qui semble demander à ses parents de lui faire confiance et d'attendre le jour où le sens de ce qu'ils ont vécu leur sera révélé. Paradoxalement, c'est un adolescent qui nous instruit, chers frères et sœurs, de la sagesse de Dieu. Mettons-nous d'abord du côté de Marie et de Joseph. Certes, ils savent bien, l'un et l'autre, que Jésus n'est pas n'importe quel enfant. Non seulement il est unique parce qu'il est le leur, mais l'archange Gabriel l'a annoncé, il sera grand, il sera appelé « Fils du Très-Haut », le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Cependant, Marie et Joseph semblent élever Jésus comme des parents juifs éduquent un garçon de son âge, dans la piété et la confiance. La piété, c'est le pèlerinage annuel à Jérusalem pour la grande fête de Pâques, dans le respect de la loi. Allons voir par exemple du côté du livre du Deutéronome, chapitre 16, verset 2. La confiance, c'est accorder une certaine liberté de mouvement à Jésus. Il n'est pas un enfant couvé par des parents poules avec un téléphone portable dans la poche. Et voilà que les événements viennent bousculer ce bel équilibre éducatif. Jésus a 12 ans. Nous savons bien ce qu'il arrive à cet âge-là. Un événement aussi miraculeux que profondément déstabilisant, j'ai nommé l'adolescence. Seulement, ne concluons pas trop vite que l'épisode raconté par Luc manifeste que Jésus a fait sa crise comme tout le monde. Non. Ne pensons pas non plus que Jésus vit là une bar mitzvah anticipée. Vous le savez, c'est en effet à 13 ans qu'un garçon juif acquiert la majorité religieuse. Mais ce rite ne sera fixé que bien plus tard, dans le judaïsme, vers le XIVe siècle. En revanche, rappelons-nous que c'est à 12 ans que Salomon monte sur le trône selon la tradition. Oui, Salomon, qui demeure une figure royale de référence pour les Juifs, car doté d'une sagesse incomparable. Et vous le savez, chers frères et sœurs, plusieurs livres de l'Ancien Testament sont placés sous son patronage. Non seulement Salomon est un modèle de sagesse, mais il a aussi construit le temple. Tiens donc. Toutefois, il reste que la situation a de quoi effrayer Marie et Joseph. Ils ont perdu leur fils. Et symboliquement, cela peut nous faire penser à ce que ressentent des parents quand ils ne reconnaissent plus leur enfant quand celui-ci entre dans l'âge de la puberté. Physiquement, intellectuellement et moralement, l'enfant laisse peu à peu la place à l'adulte en devenir, l'adolescent. Marie et Joseph ont perdu de vue leur garçon. Serait-ce le moment, alors, de la réalisation de la prophétie de Siméon ? Souvenons-nous en effet la première fois que Jésus est allé à Jérusalem, au temple, avec ses parents. Il n'avait que 40 jours. Le vieillard avait annoncé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme à elle serait traversée d'un glaive. Mais l'heure n'est pas encore venue pour Jésus de vivre sa passion et de mourir à Jérusalem. Cela viendra plus tard. Au bout de 3 jours, mention symbolique s'il en est, voici l'enfant perdu, retrouvé. Si Jésus n'est pas pris en flagrant délit de mal agir, et s'il est en très bonne compagnie dans un lieu saint, il n'en reste pas moins que nous pouvons compatir à l'inquiétude de Marie et de Joseph. Et nous comprenons fort bien la question de celle-là. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Dans notre vie spirituelle, nous traversons tous des moments plus difficiles, où Dieu semble aux abonnés absents. Et quand nous le retrouvons, nous sommes pleins de sentiments mêlés. Soulagement de renouer avec Dieu, mais aussi, d'une certaine manière, peine d'avoir ressenti son absence comme une souffrance inexplicable. Écoutons maintenant la réponse de Jésus. Cette réponse, sous forme de question, nous étonne davantage que celle de sa mère. Alors, si on exclut toute ironie typique des adolescents arrogants, et non, ceux-ci n'ont même pas l'excuse d'avoir été précédés par Jésus sur ce chemin-là, nous entendons Jésus comme découvrir que ses parents terrestres n'en sont pas au même point que lui en matière de connaissance du projet divin. Comment ? Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me vaut être chez mon Père ? Avec une majuscule. C'est ainsi. Nous ne comprenons pas toujours le sens des événements que nous traversons, surtout quand ils sont source d'angoisse et de tristesse. Il nous arrive d'avoir l'âme comme traversée d'un glaive, mais nous n'en saisissons pas la raison, tant ce que nous subissons paraît absurde. Les catastrophes s'enchaînent dans notre vie sans que nous les ayons provoquées, et Dieu dans tout ça. Ne cherchons pas dans la série de nos malheurs une volonté divine de nous accabler, fût-ce pour voir ce que nous avons dans le ventre et si nous sommes des hommes et des femmes de foi. Dieu ne veut pas le cancer de ma sœur, il ne veut pas la dévastation de Mayotte, il ne veut pas la mort du nourrisson. Surtout, retenons de l'Évangile 3 attitudes. Premièrement, quand nous pensons avoir perdu Jésus, cherchons-le où il est, chez son Père, c'est-à-dire le royaume, là où sont amour et charité. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est ce qu'il peut déployer, y compris dans la souffrance la plus absurde. Alors oui, les événements peuvent avoir du sens, parce que le Seigneur, dans sa toute-puissance, est présent, est aimant. Deuxièmement, imitons Marie face à l'incompréhensible. Elle gardait dans son cœur tous ces événements, non par ressassement morbide, mais par volonté d'y trouver justement la présence de Dieu. Troisièmement, enfin, Rappelons-nous simplement la parole de Jésus en écho à ces questions. Et cette question de Jésus peut nourrir notre espérance. Plus tard, tu comprendras. Amen.